Chapitre 7.
Un cabriolet minuscule stationne en double file devant la gare de Rambouillet. Assis sur l'aile, bras croisés, le docteur Farge prend la pluie. Il me regarde arriver, me dit que je suis très élégant. Je peux, mon costume m'a coûté 6 de ses ordonnances. Il me serre la main, me dit qu'il me prêtera des affaires de campagne. Je me plie pour entrer dans sa voiture. Je ne ressens aucune gêne devant lui, aucun remords. Comme si le fait qu'on me refuse mon identité m'affranchissait de tous les scrupules, toutes les valeurs, toutes les règles que la société impose à l'individu pour l'enfermer dans son rôle. Je n'ai plus de limites, je n'ai plus de repères, je n'ai plus de sanctions. Puisqu'on ne me reconnaît plus, puisqu'on ne veut plus me connaître. Un bref instant, pendant que je dilais dans les jardins du forum, je me suis dit qu'il fallait cesser d'exister pour commencer à vivre. Ce n'est pas moi qui parlais, mais cette voix n'était pas inconnue. Vous me trouvez changé depuis tout à l'heure ? Il finit sa marche arrière, se met au point mort et me dévisage. Pourquoi ? Je devrais ? J'avais oublié que les psys répondent par des questions. J'élude avec un geste vers le pare-brise. Il peut rouler. L'accélération me plaque en arrière. C'est le roadster Honda, commente-t-il. La principale folie que je m'autorise. Les trous de la chaussée m'envoient dans la capote. Il prend les virages à la corde, roule à 120 dans les nids de poule. Comprimé contre lui avec l'impression que mes fesses râpent le bitume, je me dis qu'il ne faut pas juger les gens. Je l'imaginais dans un break Volvo, double airbag et musique douce. De son côté, il me prend sûrement pour un pauvre paumé honnête. « À quoi pensez-vous ? » demande-t-il au bout d'un moment, tandis qu'on sort de la ville. Je replie mon sourire. Je pensais à mon dernier acquéreur, le genre black à roulette, qui s'était payé le culot de me faire la morale. Je lui répliquais que de toute manière, avec ou sans mes ordonnances, il aurait eu le moyen de se fournir en produit shootant. Grâce à mon système, si ça se trouve, j'épargnais même la vie d'un pharmacien. Il a rigolé sur ses rollers, m'a tapé l'épaule en disant que j'étais cool. Je sais surtout me débrouiller dans la jungle, sinon je ne serais jamais revenu entier de mes missions en Amazonie. Si mes questions vous dérangent, dites-le-moi. Ça va. On distingue à peine les arbres dans la lueur des phares. Il enclenche la ventilation qui me glace le visage en augmentant la buée. Vous vous êtes blessé ? Cogné juste. J'abaisse le pare-soleil pour vérifier les dégâts. Je n'ai qu'une entaille à la pommette et un début de bleu. Une moto m'a foncé dessus quand je sortais du forum après mes achats. J'ai roulé sur le sol, le passager casqué s'est précipité sur moi et puis un coup de sifflet l'a stoppé net. Les deux hommes ont disparu sur leur moto. J'ai remercié les flics surgis de nulle part qui m'ont déconseillé de me promener à cette heure-ci dans le quartier avec des sacs tendance D. Alors, quoi de neuf depuis tout à l'heure ? Demande le neuropsychiatre d'un ton allègre, en désembuant avec sa main. Je passe sous silence mes transactions dans le jardin des Halles, ainsi que mon shopping au niveau -3 du forum. Je longeais les boutiques à la recherche d'un costume comme j'en porte d'habitude, passe-partout et qui ne froisse pas, quand je suis tombé en arrêt devant tendance D. La vendeuse refaisait la vitrine. Brune à cheveux longs, petite, cambrée, les seins tendus sous la soie sauvage, elle enfilait une chemise au mannequin. La manière dont elle l'habillait était plus sexy qu'un striptease. Elle a croisé mon regard, m'a souri. Le couloir était désert, à part des agents de nettoyage qui traînaient des balais serpillières dans le bruit des rideaux de fer qui descendaient l'un après l'autre. Je suis entré. Vous êtes fermé ? Ça dépend. Elle a fini de boutonner la chemise de l'homme en plastique, l'a rentrée dans son pantalon, a enjambé le rebord de sa vitrine. Le bout de ses seins pointait entre deux chauves-souris sur le chemisier gore noué au-dessus de son nombril. « Vous désirez ?» Elle regardait ma vieille veste à chevrons bleus rétrécie par la Seine. J'ai confirmé d'un signe de tête. « Vous faites un bon 56. » Ça avait l'air d'un compliment. Elle a ajouté, en cherchant sur les portants, qu'ici ce n'était pas trop mon look. J'ai répondu que je n'avais plus de look. À elle de me trouver un style. Aussitôt, elle m'a tendu un t-shirt orange et une redingote de vampire en glissant d'une voix chaude. « Essayez-moi ça. » Elle a ouvert le rideau de la cabine d'essayage et je me suis déshabillé sans le refermer. Le désir me serrait la gorge. Ce besoin d'attirer une inconnue, d'être regardé pour mon corps sans que le problème se pose de savoir qui l'occupe. Les relents d'hôpital, cette propreté aigre et chimique, imprégnaient encore ma peau. J'avais envie de les faire disparaître sous les odeurs de baise, de noyer la trahison de Lise dans le corps d'une autre. Et cette envie suffisait à me rendre justice. Ce n'était pas un fantasme, c'était une réhabilitation. Comme on le dit d'un local désaffecté qu'on entreprend de rendre habitable. Torse nu dans le miroir de la cabine, j'avais l'air de ce que je suis. Un homme des bois déguisé en produit civilisé, rasé, coiffé, crémé, pasteurisé, un bûcheron des villes. L'équivalent d'un moniteur de ski sans neige, aucun charme, aucun intérêt, aucune couleur sortie de son élément. Pourtant, la fille me regardait à la dérobée, jouer des muscles en enfilant le t-shirt. Je sentais bien que je lui plaisais, même si son seul objectif était une vente. Plutôt ce genre-là, a-t-elle conclu en me présentant l'ensemble que je porte. J'ai passé devant elle le pantalon d'élastis serré aux cuisses, la chemise sans col, la veste à 8 boutons. J'avais l'air d'un clergyman à pattes d'ef. Les bras croisés, elle me regardait bandée sous le pantalon moulé, en confirmant que c'était la bonne taille. « Vous pouvez me faire le bas tout de suite ?» Elle s'est agenouillée pour me planter ses épingles. « Ce n'est qu'un 2 litres, mais il a un couple de 21. » Je suppose qu'il parle de son moteur. J'acquiesce, chasse de mes yeux la bouche de la vendeuse. « Et vous-même, en quoi roulez-vous aux États-Unis ? » « J'ai une Ford. »« Quel cylindré ? » ?»« Je ne sais pas. Il y a un grand coffre. » Un silence. Il ralentit, s'arrête devant une grille rouillée. La main sur la poignée de portière, il s'informe. « Vous jouez aux échecs ?»« Non. » Il descend pousser les battants qui grincent, remonte me dire que la météo annonce une éclaircie pour demain, me demande ce que j'en pense. Je réponds que c'est possible, s'ils le disent. Il me signale que souvent, après une expérience de mort imminente, les gens ont des prémonitions. Je précise que ce n'est pas le cas. Il roule jusqu'au bout de l'allée, se gare sur une aire de gravier. La maison est une chaumière ancienne tassée entre un massif de rhododendrons et un grand magnolia couché. Je descends, m'approche de l'arbre. La tempête de Noël 99, commente-t-il tristement. Je n'ai pas voulu qu'on le coupe. Il fleurit encore. Et même plus qu'avant. Les lagueurs ne lui laissaient aucune chance, mais voyez, il survit. En dehors de ma profession, je n'écoute personne. Je lui donne raison pour ne pas lui assombrir la soirée. Les arbres augmentent toujours leur floraison avant de mourir pour assurer leur descendance. Vous faites un beau métier, Martin. Franchement, dites-moi, vous arrivez à communiquer avec les arbres ? Ils vous parlent ?
Très bien.
De quelle manière ?
Ça dépend des espèces.
Je vous envie. Les êtres humains sont tellement répétitifs.
Je peux me taire. Je ne parlais pas de vous. Entrez, c'est ouvert, il y a la femme de ménage.
Je vais chercher du bois et je vous rejoins. J'ouvre la porte à petits carreaux, me retrouve dans une odeur de daube et de cire fraîche. Une tristesse brutale me prend aux tripes. Dans cet intérieur de célibataire 100 fois plus chaleureux que notre maison de Greenwich, qui ne sent jamais la bouffe ni le ménage, qui ne respire que l'arôme artificiel des pots pourris dans les coupelles. La cuisine est rangée, décorée de choses utiles, patinée, vivante. L'aspirateur s'éteint, une vieille dame vient me dire bonsoir et qu'il y a des pantoufles dans la corbeille. Je la suis dans le salon aux poutres basses où elle m'assied dans un canapé creusé, entre un piano recouvert d'une nappe et la cheminée où s'entassent les brindilles sur des journaux en boule.
Eau minérale ou jus de fruits ?
Je souris malgré moi. Ici, les invités ne doivent pas mélanger alcool et antidépresseurs. Il y a du champagne au frais, lance le médecin en entrant avec un panier de bûches. Merci, Bernadette. Bernadette désapprouve par un grognement et retourne à la cuisine. Ce n'est pas contre vous, c'est pour mon ulcère. Vous voulez voir votre chambre ? Je lui dis que je n'ai pas prévu de dormir. Quelqu'un vous attend ? Je le laisse allumer le feu sans répondre. Il tousse sous la fumée, entr'ouvre une fenêtre. Détendez-vous, Martin. Je l'observe avec méfiance, dans sa chemise en laine et son pantalon de treillis. Je ne crois pas à la générosité gratuite. On n'aide que les gens qui vous servent. J'ai parcouru son « qui dois-je être » dans le train. S'il veut comprendre mon cas, c'est pour s'en inspirer, tirer des conclusions, étayer sa thèse. Il m'a fait venir pour illustrer un livre en cours dans lequel je serai désigné par une simple initiale, une autre façon de nier mon identité. « Bon, je vous laisse !» dit Bernadette sur le seuil de la cuisine en retirant sa blouse. « Attention de ne pas brûler la daube, j'ai mis sur deux. Et sortez le vacherin avant de remuer la mâche. »
Fin du deuxième disque.